RCF.
Et à 18h10 sur RCF, nous retrouvons le 18-19 en région, Jean-Pierre Benoît et Alexis Claudretz.
Bonsoir à tous, le magazine régional avec RCF, Cœur de Champagne, RCF Reims-Ardennes. Bonsoir Alexis.
Bonsoir Jean-Pierre, bonsoir à toutes et à tous.
Alors je vois qu'il y a quand même pas mal de monde. C'est vrai qu'il y a notre chroniqueur habituel du mercredi, Fernand Tavares. On salue d'ailleurs Robert Auverger qui n'est pas là ce soir. Et bon, il a pris un petit coup de froid, mais il va revenir le plus vite possible.
On pense à lui.
On pense à lui,
bien sûr. Ses mots nous manquent.
Ces mots nous manquent, effectivement. Alors Alexis, un programme encore relativement bien chargé ce soir.
Effectivement, je continue le tour de la table avant d'évoquer le programme. Jean-Pierre, nous avons Mélissa Tavares, notre stagiaire à la rédaction, qui est là, qui nous accompagne. Mélissa, bonsoir.
Bonsoir.
Toujours rien à voir avec Fernand Tavares, vous n'êtes toujours pas en famille depuis la dernière fois.
Toujours pas.
Et comme Dupont et Dupont en France.
C'est, voilà, il y a des Tavares au Portugal, ce sont vos origines, des origines portugaises, et vous êtes assez nombreux. Il y a également Sacha Lelès qui nous rejoint, il est stagiaire en 3e, il est au collège Notre-Dame. Bonsoir Sacha.
Bonsoir.
On vous retrouvera tout à l'heure, notamment au moment de la météo à l'intérieur du journal régional qui viendra couper un fil rouge. Le fil rouge ce soir, Jean-Pierre, c'est le recteur de l'Académie de Reims, Vincent Stanek, qui sera notre invité dans quelques minutes après Fernand Tavares. Et puis également en deuxième partie de l'émission, dans la première partie, on évoquera notamment les filières et formations professionnelles et technologiques. On verra que c'est un recteur, Vincent Stanek, qui est arrivé il y a quelques mois, qui va beaucoup sur le terrain. Et puis dans la deuxième partie, on évoquera de nombreux sujets d'actualité, notamment cette filière prépa-bac que nos auditeurs découvriront peut-être. Et puis on parlera aussi harcèlement scolaire qui est un des combats du recteur.
Prépa-lycée, je pense.
Prépa-lycée, pardon, tout à fait.
Alors, il faut dire, Alexis, que nous avons l'occasion, effectivement, de faire cette semaine trois directs en matinale sur RCF Reims-Ardennes. On les rappelle, ce matin, c'était le recteur de l'Académie de Reims, Vincent Stanek. Demain, ce sera le maire de Reims, président du Grand Reims, Arnaud Robinet. Et après-demain, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, archevêque de Reims et président de la Conférence des évêques de France. Donc, trois beaux directs le matin.
Ça fait un beau programme, Jean-Pierre,
oui,
effectivement.
Mais il faut se lever tôt aussi, hein, parce que nous, on est là tous les trois jours, là, tous les jours. Là.
On se lève tôt et on se couche tard, puisqu'on est avec vous jusqu'à 19h, Jean-Pierre.
Absolument,
vous êtes avec Fernand Tavares.
Absolument. Fernand, bonsoir.
Bonsoir.
Vous aussi, vous avez suivi l'actualité qui est quand même assez remplie. Discours du Premier ministre, politique générale, hier à l'Assemblée nationale, lu par Bruno Le Maire au Sénat. Vous avez suivi tout ça, évidemment, avec beaucoup d'intérêt.
Des heures et des heures d'écoute. Des heures et des heures d'écoute des politiques, des heures et des heures d'écoute des agriculteurs qui sont sur les routes, sur les autoroutes, qui sont dans nos régions, dans nos départements, dans nos villes. Bref, il faut filtrer tout ça. Alors, revenons au début de la semaine, puisque le nouveau Premier ministre a prononcé, comme vous l'avez dit, son discours de politique générale en commençant, c'est traditionnel, par l'Assemblée nationale. Au même moment, un ministre lisait ce même discours. La particularité, c'est que aujourd'hui, mercredi, au Sénat, eh bien figurez-vous, c'est une première en quelque sorte, parce que je n'ai pas en mémoire les choses comme cela, le Premier ministre, M. Attal, a refait un discours de politique générale à l'intention uniquement des sénateurs.
Pas tout à fait le même que celui lu par Bruno Le Maire.
Pas tout à fait même, plus resserré, mais on a retrouvé quand même les mêmes idées. Simplement, il y avait une très grosse différence d'ambiance entre l'Assemblée nationale, où ça hurlait, en particulier sur les bancs de la France insoumise, alors qu'au Sénat, on était très attentifs, sages comme des images, sauf qu'au moment du débat avec les sénateurs, le président du groupe Les Républicains est monté au créneau et n'a pas fait de cadeau au président de la République, Emmanuel Macron. On y reviendra tout à l'heure.
Alors justement, j'ai envie de vous interroger d'abord sur les agriculteurs, parce que c'est quand même le dossier chaud en ce moment. Est-ce que les choses évoluent, commencent à avancer? La politique agricole commune, il y avait des versements qui étaient prévus. Donc il y a des petites choses, des petites qui avancent.
Alors, on voit bien que dans le monde agricole, la plupart des syndicats arrivent à tenir à peu près leurs troupes. Quoi que ce soit, j'ai entendu que certains avaient réussi à déjouer la surveillance des policiers et quelques-uns sont même entrés au marché de Rungis. Bon, sans trop de dégâts pour l'instant. Cela dit, il faut quand même réaliser une chose depuis le temps qu'on en parle. C'est qu'il y a les problèmes franco-français, certes, vous en avez évoqué quelques-uns, mais il y a surtout une attente du monde agricole. Ils attendent beaucoup du gouvernement français, c'est vrai, Mais comme ça dure, il faut quand même élargir le débat. On se rend bien compte qu'ils attendent autre chose et peut-être plus davantage de Bruxelles. Alors aujourd'hui, le ministre de l'Agriculture français était à Bruxelles et il y a une petite ouverture sur l'affaire des jachères. Bon, il se peut que là-dessus, les choses avancent un petit peu. Mais c'est une petite ouverture supplémentaire. Ce qu'attendent les agriculteurs en réalité, c'est ce que vont faire les chefs d'État européens qui sont réunis, qui se réunissent demain, toujours à Bruxelles. Et le président de la République française, Emmanuel Macron, sera sur place. Il va évidemment défendre bec et ongle les agriculteurs. Il va défendre bec et ongle les orientations qu'il souhaite donner au monde agricole. Le problème aujourd'hui, c'est que l'Europe, la France n'est pas la seule en Europe. On s'aperçoit que ce qui se passe en France a fait tache d'huile dans de nombreux pays. On en parle peu, mais ça commence à sentir le roussi en Allemagne, en Pologne, en Roumanie, en Italie et en Espagne. Si bien qu'il va y avoir quelque part, ou qui se mette en place, une sorte d'union des agriculteurs de certains pays européens qui commencent à être très nombreux et qui font pression sur Bruxelles. Le problème, c'est de savoir s'il y aura une grosse majorité pour soutenir
ça. Je ne suis pas machiavélique, vous me connaissez, Fernand.
Moi non plus.
Mais est-ce que, bien sûr que non. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un petit calcul de la part du président de la République qui a fait monter en pression cette affaire et qui, à Bruxelles, s'il obtenait un accord, dira, vous voyez, l'Europe c'est bien, la preuve c'est que c'est l'Europe qui débloque, donc pour la campagne des Européennes, c'est un petit plus. Et puis deuxièmement, j'arrive à des résultats. Est-ce qu'il n'y a pas une manip là ?
Sauf que le président de la République française, comme les autres présidents des pays européens, peuvent poser les bonnes questions et avoir de bonnes réponses. Mais le président de la République française, comme un autre président de la République d'un autre pays européen, ne peut pas dire « c'est grâce à moi que ». Il faudra qu'il y ait un vote à l'unanimité sur des propositions faites par les présidents, dont le président français. Mais il y a une réflexion politique que je me fais parce que on a oublié un certain nombre de thèmes d'actualité dont on a beaucoup parlé la semaine dernière.
Oui, la loi immigration, on n'en parle plus.
Eh ben, on n'en parle plus, mais c'est revenu dans le débat. Par exemple, cet après-midi au Sénat, où le président du groupe Les Républicains, M. Retailleau, a répondu au Premier ministre de façon très, très sévère. Et pour en revenir à ce que vous disiez sur les problèmes de communication, LR reproche, entre guillemets, aux macronistes, pour reprendre l'expression du sénateur, de jouer trop de communication et de ne pas s'inspirer de l'histoire de France. Alors je trouve que même le président du groupe Les Républicains au Sénat était un peu fort. Carrément, il a dit, écoutez, M. Macron devrait faire comme le général de Gaulle au début des années 60. Vous voyez où est-ce qu'on est allé. Et tout cela, effectivement, parce que LR a en travers, mais ça, je vous l'avais dit ici au Sénat, au moment de la loi sur l'immigration, quand tout a été voté, LR a voté avec la majorité macronienne, etc. Et je vous avais dit, attention, le Conseil constitutionnel va être saisi, ce qu'a fait le président de la République, et à tous les coups, une bonne partie des articles les plus sensibles, ceux dont voulaient expressément les Républicains, ces articles-là, à tous les coups, ils vont passer à la trappe. Ça a été fait, ça a été rappelé cet après-midi par le président du groupe Les Républicains au Sénat, qui a l'air, en quelque sorte, il était plus, comment dirais-je, à gauche que la gauche envers les macronistes. Et pourtant, le président du groupe socialiste au Sénat n'y est pas allé de main morte non plus. Autrement dit, cet après-midi au Sénat, alors que d'habitude ça se passe très bien, politiquement ça a été encore plus dur qu'à l'Assemblée nationale.
Alors, quelques points, puisqu'il nous reste, je pars sous le couvert d'Alexis, de 2 minutes, oui. 2-3 minutes. Il faut rappeler quand même le contexte politique. Est-ce que le Premier ministre veut se rapprocher ou donner plus de pouvoir aux élus locaux, voire aux préfets, pour régler un certain nombre de choses?
Alors ça, c'est ce qui est sorti, on n'en parle pas beaucoup parce qu'on ne pense qu'aux agriculteurs. Mais ce qui est apparu, encore une fois, parce que ça a déjà été fait les dernières semaines, mais c'est revenu dans le discours de Gabriel Attal aujourd'hui et hier, c'est que, par exemple, pour les logements sociaux, vous savez
attribution
des logements sociaux, cette fois-ci,
les maires
vont être en première ligne, non pas pour tout décider, mais pour éventuellement pouvoir distribuer un certain nombre de logements, un quota de logements. Bon. Deuxième chose. Les préfets, ça me rappelle des vieux souvenirs, les préfets, on a bien vu qu'ils ont monté au créneau en première ligne dans l'affaire des agriculteurs. Les préfets accompagnaient d'ailleurs le Premier ministre. Et Je vais faire une image en quelque sorte. J'ai le sentiment que les préfets dans nos régions vont reprendre sérieusement du poil de la bête. Ils vont être responsabilisés. Et je pense, enfin c'est dans mon esprit, qu'ils vont devenir des sortes. Je dis bien des sortes parce que c'est, politiquement c'est pas possible. Mais ce seront des sortes de secrétaires d'État régionaux pour mettre en lumière et mettre en musique tout ce qu'aura décidé la majorité gouvernementale, si tant est qu'il y ait une majorité sur tous les sujets.
Alors tout ça, on va le suivre. Il nous reste une minute parce que ensuite on vous retrouvera dans le journal régional avec Alexis qui vous posera une paire de questions. On conclut Fernand, parce 30 secondes.
On va conclure par quoi on a commencé. Les agriculteurs. Donc maintenant, on sent que les choses avancent, mais dans les revendications qui demeurent, il y en a encore beaucoup, les retraites des agriculteurs, on en entend beaucoup parler, les droits de transmission de parents à enfants, c'est dans l'air, ça représente aussi beaucoup d'argent, mais tout ça, ça va être présenté à Bruxelles. Donc il faut attendre. Mais il ne faut pas attendre de Bruxelles que tout soit résolu demain. C'est impossible, vu le nombre d'affaires. Alors est-ce que ce qui sera avancé, notamment l'affaire des jachères, puisque sur le carburant, c'est réglé. Le carburant, c'est quand même pas rien. Ça fait des centaines d'euros d'économies par mois. Hein, les agriculteurs ont au moins obtenu ça. Maintenant, sur les salaires, les conditions de travail, les horaires,
le SMIC. Il y a encore beaucoup à faire.
Voilà. Le SMIC agricole, eh bien, il faut aussi qu'il soit réel.
Merci en tout cas Fernand Tavares, c'est toujours avec plaisir qu'on vous retrouve le mercredi pour analyser la situation au Parlement surtout, mais dans la situation politique en général. Il est 18h22, la suite des programmes dans un instant.
Le 18-19 sur RCF.
Invité long format de RCF en Sardaigne, le recteur de l'Académie de Reims, Vincent Stanek, est revenu sur l'importance des filières professionnelles et technologiques. C'était à votre micro, Jean-Pierre.
Alors, monsieur le recteur, bien sûr, vous êtes là depuis seulement quelques mois, depuis 5 mois. Mais depuis 5 mois, vous êtes allé beaucoup sur le terrain. Vous y allez encore cet après-midi, vous y étiez hier. Enfin, c'est quasiment tous les jours. Pour vous, c'est une manière de mieux connaître et de comprendre cette académie.
C'est très important. Particulièrement pour l'Académie de Reims, qui est une académie très étendue, qui fait 450 km du nord jusqu'au sud, qui est une académie avec beaucoup de dizaines d'établissements et qui est une académie très riche. Et donc parcourir l'académie, pour moi, c'est en prendre le pouls, c'est en voir toute la diversité, parce qu'entre la problématique rémoise et les problématiques de la Haute-Marne, on est sur des choses qui sont à la fois unies par l'unité de l'académie, mais en même temps très différentes. Il faut le comprendre, il faut prendre le temps d'y aller.
Cette académie a des atouts, bien sûr elle a, comme toutes les académies, des handicaps. Vous apprenez, vous qui venez du sud de la France, à redécouvrir cette Champagne-Ardenne. Vous appréciez, monsieur le recteur ?
D'abord, je viens du nord, puisque je suis né à Douai, donc c'est plutôt pour moi un retour proche de mes terres natales. Et ce que je découvre ici, c'est une académie, alors elle a de très grandes forces. D'abord, elle a une diversité d'offres de formation incroyable. Et je dois dire d'ailleurs que j'ai découvert que l'enseignement professionnel était une des forces de l'Académie de Reims, puisque nous y avons plus d'élèves en moyenne qu'au niveau national, avec des formations qui vont vraiment, je veux dire, dans tous les sens et qui couvrent un nombre incroyable d'une palette de besoins qu'on essaie encore d'enrichir. Et puis aussi, c'est une académie, alors évidemment, marquée par la ruralité. Alors, les problématiques de la ruralité sont vraiment très prégnantes. Il faut évidemment être très attentif à cela. Et puis, c'est une académie qui rencontre aussi des difficultés, on pourra en parler, et des caractéristiques un peu structurelles, et notamment la démographie. Hein. Vous savez, la démographie, on en parle beaucoup en ce moment. Et malheureusement, mais comme d'autres académies, comme toutes les académies en réalité en France, perd des élèves. Et donc pour nous, il faut adapter la gestion de l'académie à la situation démographique. Voilà un petit peu les grandes caractéristiques, mais j'insisterai surtout sur les forces, parce que ce que je découvre aujourd'hui, c'est plutôt ce qui m'intéresse, c'est avant de parler des faiblesses, c'est de parler des forces. On travaille avec des gens qui sont très engagés, des professeurs qui sont vraiment remarquables, et s'appuyer sur eux, pour moi, c'est une chance et un bonheur.
Avant de vous retrouver, monsieur le recteur, il y a des témoignages qu'on en a recueillis, et je sais que pour vous, issu de l'école normale supérieure, brillantissime en philosophie, puisque vous êtes, je crois, agrégé de philosophie, mais aussi docteur en philosophie, Quand on va sur le terrain, on doit s'adapter à des situations. Et pourtant, vous rencontrez parfois des élèves, des jeunes qui ont contact avec des petits, par exemple en maternelle, et vous leur apprenez ou vous découvrez que parfois vous les entraînez sur le terrain du grand âge, ils rencontrent des personnes plus âgées. On parle aujourd'hui du transgénérationnel, eh bien vous le vivez au quotidien. Le philosophe, là, il doit finalement être content au fond de lui-même.
Alors, je ne sais pas si j'apprends quelque chose quand je vais dans... Enfin, je suis pas un professeur dans l'exercice de mes fonctions, même si j'essaie de transmettre quelque chose. Mais sur la philosophie, puisque vous le mentionnez, récemment, j'ai pu voir qu'une enseignante de philosophie qui intervenait auprès de jeunes élèves d'un bac professionnel dans le cadre de l'aide à la personne. Donc, justement... qui mettait en œuvre la philosophie, les questions qu'elle ouvre sur le grand âge, qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que s'approcher de la fin de vie, qu'est-ce que travailler quand on est jeune avec des seniors. Et donc cette rencontre de la philosophie avec les problématiques de la voie professionnelle, c'est aussi, il faut le dire, un sujet où l'académie est plutôt en pointe. Et en tout cas, moi, c'était à Chaumont, où j'ai pu voir ça, et j'ai trouvé que c'était vraiment une profondeur de vie et de pensée que je trouvais vraiment remarquable, que moi je n'ai pas pratiqué comme professeur de philosophie, et en voyant cette professeure de philosophie qui, elle, le faisait, je trouvais que c'était vraiment une très belle initiative.
À notre tour, monsieur le recteur, on va aller un peu sur le terrain avec vous, Alexis. Monsieur le recteur vient de parler des filières professionnelles et technologiques, c'est un atout, et j'allais dire, pour la Champagne-Ardenne et l'Académie de Reims, une filière d'excellence. Alexis, vous êtes allé également sur le terrain, vous avez récolté quelques témoignages.
Effectivement, et on a rencontré notamment Paul, qui est lycéen du côté de Bazeilles, dans les Ardennes, près de Sedan, en filière technologique, spécialité évidemment à Bazeilles, cuisine, service, hôtellerie.
Eh bien, parce que mon conseiller d'orientation me l'avait proposé. Il m'a permis de faire un mini-stage d'une journée dans le lycée pour pouvoir voir globalement ce que c'était, et ça m'a plu, et j'ai eu envie de m'inscrire dans le lycée et puis faire mes études là-bas. Elle est différente parce que on a des cours plutôt atypiques comme la cuisine ou le service et on peut pas choisir nos spécialités, donc on a des matières imposées qu'on ne choisit pas. Le lycée, il m'a aidé à m'organiser pour mes travaux, pour mes devoirs, avec mon plan d'aide personnalisé. Donc j'ai eu le droit à une AESH et des simplifications des exercices, réduction des devoirs, aide aux devoirs aussi beaucoup. En seconde, on a l'étude obligatoire. Donc une heure d'études obligatoires, où là je peux avoir de l'aide au devoir par rapport à mon plan d'aide personnalisé. Puis sinon après, ça s'organise comme tout autre internat.
Là on voit bien, monsieur le recteur, qu'on a des élèves qui sont satisfaits à la fois de la formation qu'ils dispensent, de la façon dont ils ont été orientés avant cela, et puis aussi de la façon dont ils sont accompagnés parfois dans leurs difficultés personnelles.
C'est un témoignage que je trouve très intéressant parce qu'effectivement, comme vous le dites, d'abord c'est un jeune qui explique qu'il est accompagné particulièrement, vraiment de façon individualisée, là en l'occurrence il est accompagné par une AESH, et pour nous évidemment c'est très important que chaque élève qui a ce besoin le soit accompagné au plus près. En plus, et d'autre part, il parle du futur métier qu'il prépare, et il parle du service, et il doit être en cuisine, et là c'est très intéressant ce qu'il dit, parce qu'on voit bien que ces formations en hôtellerie, elles attirent. Il se trouve que dans l'académie, on observe que nous avons un besoin de plus en plus important sur les filières de la cuisine, de l'hôtellerie, de l'accueil, que par ailleurs nous allons développer ces formations, puisqu'on est en train de structurer un pôle hôtellerie à la fois sur Épernay, on va renforcer le pôle hôtellerie sur Reims, on va le consolider donc aussi celui des Ardennes. Donc on peut lui dire à ce jeune, il est sur une filière très porteuse. Il n'y aura aucun problème d'emploi pour lui, il va trouver du travail. Et en plus, on est sur les valeurs qui sont celles de l'hôtellerie, c'est-à-dire le service au client, aussi une certaine forme d'excellence, d'investissement. Ce sont des très très beaux métiers où l'académie, c'est pour moi une fierté, est plutôt vraiment dans une logique de conquête, si j'ose dire, et d'excellence.
Monsieur le recteur, prenons le département des Ardennes, c'était une terre industrielle qui a connu beaucoup de difficultés. Et justement, elle joue aussi la carte du tourisme, on parle de l'hôtellerie, de la restauration. Mais elle reste fidèle aussi à sa tradition. Et parfois, il vous arrive de rencontrer même des élus dans le département des Ardennes qui relancent des filières technologiques, industrielles et qui souhaitent d'avoir avec vous un lien étroit. Et quand on dit que l'éducation nationale est déconnectée parfois des réalités de l'entreprise, c'est pas tout à fait le cas quand même.
Ah non, ça vraiment aujourd'hui, on peut dire qu'on a des relations extrêmement étroites avec le monde de l'entreprise. Nous avons des rencontres très régulières. Pas plus tard qu'hier, j'étais avec le responsable de la foire de Chalon et on parlait justement de notre implication très concrète dans des stands de la foire de Chalon. Pour revenir sur le département des Ardennes que vous évoquez, c'est un magnifique département. Et vous le dites qu'il y a une tradition industrielle importante, prestigieuse même. Et hier justement, j'étais aussi avec le maire de Charleville-Mézières et nous parlions précisément de cela. Et il était très heureux du fait que nous allons à la prochaine rentrée ouvrir une formation de technicien supérieur sur la formation liée à la radiologie, au métier du radiologue. Et donc, vous voyez, on essaie aussi de participer en ce qui nous concerne à cet effort de réindustrialisation et donc de formation sur des filières qui sont liées aux nouveaux emplois. Toujours sur les Ardennes, ce qu'on peut noter, c'est que vous mentionnez aussi, hein, il y a cette filière du tourisme. C'est un département magnifique, un peu méconnu en tout cas à connaître. Et on essaye nous aussi de participer vraiment à cette découverte de ce territoire.
On retrouvera de nouveau le recteur Vincent Stanek en deuxième partie d'émission, juste après le journal régional 18h31. Les titres de ce mercredi 31 janvier, le monde viticole est solidaire du monde agricole. Les agriculteurs et viticulteurs marnais ont rejoint les blocages parisiens ce matin. Une Marne plus solidaire, plus attractive et plus durable, c'est les souhaits pour 2024 qu'a formulé le président du département, Jean-Marc Rose, lors de ses vœux à la presse.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Le syndicat général des vignerons de la Champagne apporte son soutien aux agriculteurs par la voix de son président Maxime Toubard et des élus qui ont participé au mouvement des agriculteurs marnais, comme nous l'explique Vincent L'Églantier, président de section locale au SGV de la Champagne.
Cette solidarité envers nos collègues et amis agriculteurs s'est manifestée par un communiqué de soutien de la part du président Toubard dès la semaine dernière. Et puis des viticulteurs étaient déjà, à titre individuel, à titre personnel, présents ce vendredi sur les différents points de manifestation d'opération escargot dans la Marne. Et puis, il a été demandé aux administrateurs du syndicat général des vignerons, dont je fais partie, de rejoindre les manifestations, les diverses manifestations qui ont lieu cette semaine. Je pensais notamment à mardi sur les points de blocage Reims-Tilloy ou encore en Argonne. Et puis dès ce mercredi en région parisienne, à l'image des Cézannais qui ont été mobilisés pour remplacer les collègues Seine-et-Marnais qui sont sur le pont depuis lundi matin, apporter leur soutien à nos collègues céréaliers, éleveurs et maraîchers et agriculteurs comme nous le sommes tous.
Les vignerons comme les agriculteurs subissent une accumulation de normes incohérentes. Vincent L'Églantier.
Nous avons 80% des problématiques, des revendications qui sont les mêmes. Je pense à la lourdeur administrative, je pense au poids des normes environnementales. Est-ce que vous savez combien est-ce qu'il y a de règles qui viennent régir simplement le fait d'entretenir les haies qui sont au bord des champs? Il y en a 14, d'où la mobilisation des viticulteurs et le soutien de notre filière à tous nos collègues agriculteurs.
Des propos recueillis par Christopher Fausten de RCF Cœur de Champagne après des actions sur les ronds-points en début de semaine. Les agriculteurs et viticulteurs marnais ont rejoint ce matin les blocages parisiens. Le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, a annoncé ce mercredi matin chez nos confrères de Sud Radio mettre 80 millions d'euros d'aides supplémentaires sur la table pour l'ensemble des régions viticoles qui sont en crise. L'État prend ainsi en charge les intérêts d'emprunt sur l'année 2024, ce qui devrait permettre de couvrir les aléas qu'ont rencontré un certain nombre de régions, dont la Champagne, qui avait vu ses productions touchées par le mildiou. Depuis plusieurs mois, la suppression de la desserte d'un TGV du vendredi soir à Rethel irrite au plus haut point. Le maire de la commune, Joseph Afribo, déplore le manque de concertation.
Une réponse, excusez-moi d'expression, une réponse cavalière de la direction de la SNCF m'informant avoir contacté la mairie en mars 2023 et avoir adressé un mail à transmettre au maire pour l'informer des modifications des horaires et des dessertes de TGV. Je suis stupéfait d'entendre ces propos. Est-ce qu'on nous traitons une telle opération avec des mails? Un dossier aussi important, le département a financé plus de 8 millions d'euros pour que ce beau département des Ardennes soit desservi. Aujourd'hui, on est traité plus bas que terre. Je trouve inadmissible que cette desserte qui a été supprimée pour des raisons techniques soit revue. Moi, je suis là pour défendre le service public, pour défendre les deniers que les Ardennais ont engagés dans cette vaste opération. J'étais conseiller départemental et je sais de quoi je parle. Donc, à un moment donné, ça suffit maintenant. Le département des Ardennes doit être respecté. C'est son image qui est en jeu aujourd'hui. Donc, audience et qu'on se mette autour d'une table et qu'on trouve une solution heureuse pour tout le monde.
Vous l'avez compris, Joseph Afribot a demandé de rencontrer la direction de la SNCF. Vent de panique ce matin dans les Ardennes avec un accident de la circulation pas comme les autres qui est survenu sur la départementale 28 à Bouvelmont en direction de Ballon. Un poids lourd de 19 tonnes transportant du gaz s'est retrouvé couché sur la route. L'opération de relevage risquée en début d'après-midi n'a pas provoqué d'incident. Des relevés d'explosimétrie avaient été faits et un périmètre de sécurité installé. Les principaux syndicats d'enseignants appellent à la grève demain pour les salaires et les conditions de travail, sujet auquel s'ajoute la défense de l'école publique après les déclarations polémiques de la ministre de l'Éducation nationale Amélie Oudéa-Castéra. Des manifestations sont annoncées dans de nombreuses villes à Châlons-en-Champagne. Un rassemblement aura lieu de 9h à 11h devant la mairie. Dans l'aube, une manifestation débutera à 14h devant la mairie de Troyes. Le FSU-SNU-IPP, premier syndicat dans le primaire, table sur une moyenne de 40% de grévistes sur le territoire, avec 65% de grévistes à Paris. Fin du mois de janvier 2024, aujourd'hui, et selon la tradition consacrée, dernier jour où l'on peut formuler ses vœux. Les différentes institutions terminent ce que l'on pourrait appeler leur tournée générale de ce début d'année civile. En début de semaine, c'est Jean-Marc Rose, le président du conseil départemental de la Marne, qui a formulé ses vœux à la presse, l'occasion de rappeler que pour cette année, il souhaite une Marne plus solidaire, plus attractive et plus durable.
Oui, les solidarités, puisque vous savez que la spécialité du département, c'est justement les aides individuelles de solidarité, que ce soit le RSA, les personnes âgées, les handicapés, mais également les jeunes, l'aide à l'enfance. Ça, c'est quelque chose qui est très très fort chez nous et qu'on tient à conserver, bien sûr, mais surtout à développer, parce que c'est la solidarité des hommes. Mais il y a aussi la solidarité des territoires. Et donc, pour ce faire, nous avons par exemple lancé avec le préfet le bus France Service, qui sillonne tout le territoire sur à peu près 27 communes, pour apporter des réponses à tout des personnes qui peuvent avoir des questions et qui sont assez éloignées dans les coins reculés de la Marne. C'est une volonté du département et d'ailleurs à un tel point qu'on fera un bilan au bout de 6 mois pour voir si on modifiera ou pas cette attractivité par rapport à des secteurs qu'on n'aurait pas vus qui auraient besoin justement d'avoir des réponses. Et je voudrais ajouter aussi que dans nos compétences, il n'y a pas l'obligation d'aider les communes lorsqu'ils ont des projets structurants, par exemple la réfection d'une église, par exemple une crèche ou refaire leur mairie. Eh bien, le département, malgré une situation budgétaire difficile, tient à garder cette compétence et bien sûr la fera peut-être plus développer sur le rural. La Marne peut être plus rurale, par exemple, vous savez qu'on possède 47 collèges publics. C'est en réfectionnant tous ces collèges de manière durable, avec une ambition environnementale très élevée, que la Marne sera plus durable par cet aspect transition écologique que nous soutenons.
Jean-Marc Rose au micro de RCF Reims-Ardennes. Sur le plan politique, Arnaud Robinet, maire de Reims et président du Grand Reims, sera notre invité demain à 7h et 8h sur RCF Reims-Ardennes pendant 30 minutes. Vous l'aurez entendu demain soir dans le magazine régional. En sport, le Champagne Basket s'est imposé pour une troisième fois consécutive lors de la 18e journée de Pro B hier soir. Victoire 83-74 face à Nantes. Un succès qui permet à l'Alliance champenoise de remonter à la 13e place du classement. À 18h, bientôt 30 avant de refermer ce journal, place à la météo avec notre nouveau stagiaire à la rédaction, Sacha Lélez. Bonsoir Sacha.
Bonsoir.
T'es pas du tout stressé, ça va bien se passer. Quelle tendance pour demain, jeudi, en Champagne-Ardennes?
Demain, le temps sera pluvieux dans l'ensemble des départements. Dans la Marne, le temps sera frais comme à Reims où dans la matinée, il fera 8 degrés avec une légère pluie. À Épernay, le début de matinée devrait être très pluvieux et frais, d'après les prévisions de Météo France. Alors qu'au centre de la Marne, Châlons-en-Champagne aura un pic de 9 degrés affiché sur les thermomètres. Dans les Ardennes, le temps sera doux dans l'est à Sedan, où il fera 9 degrés au maximum. alors que plus au nord, à Charleville-Mézières, il fera plus froid avec une moyenne de 7 degrés dans la matinée. Dans l'aube, à 3, le temps restera stable avec 8 degrés affichés au thermomètre et une légère pluie en début de matinée. En Haute-Marne, le temps sera assez pluvieux comme à Chaumont où la matinée sera prise en otage par la pluie comme du côté de Saint-Dizier. Demain après-midi, la Marne sera recouverte de nuages gris qui refroidiront le temps avec 8 degrés en moyenne sur l'ensemble du département. Les Ardennes seront légèrement ensoleillées l'après-midi avec un pic de mercure à 9 degrés à Charleville-Mézières, alors qu'à Sedan, le pic sera de 6 degrés. Dans l'Aube, à 3, l'après-midi restera très grise avec une température qui ne dépassera pas les 11 degrés. Pour finir, en Haute-Marne, la température restera très stable avec 8 degrés sur toute l'après-midi à Chaumont et à Saint-Dizier. Demain, nous fêterons les Héla.
Une très bonne fête en avance à tous les Héla. Merci Sacha, vous en êtes sorti comme un chef. Demain, vous prenez ma place. Ainsi se referme ce journal. D'ailleurs, on vous retrouve demain matin à 7h40. Vous présentez davantage aux auditeurs dans le 3 questions A sur RCF France-Ardennes. Voilà, cette fois, vraiment, ainsi se referme ce journal. Le 18-19 en Champagne continue sur RCF.
Le 18-19.
Tous les jours.
Sur RCF.
À Reims.
Châlons. Charleville-Mézières.
Chose promise, chose due, deuxième partie d'émission pendant laquelle on retrouve de nouveau Vincent Stanek, recteur de l'Académie de Reims, qui était notre invité ce matin, notamment au micro de Jean-Pierre Benoît.
Beaucoup d'auditrices et d'auditeurs, parfois des grands-parents qui nous écoutent, des parents et évidemment des jeunes qui sont dans leur voiture, qui vont aller au lycée ou au collège, s'interrogent sur leur orientation. Et c'est vrai, Alexis, que nous avons là aussi un certain nombre de témoignages parce qu'il y a finalement Parcoursup qui a été mis en place et mis en route il y a quelques jours officiellement. Je crois que c'était le 24 janvier dernier.
Le 17 janvier. On a pu formuler ses vœux depuis le 17 janvier, Jean-Pierre. Mais la plateforme a ouvert le 20 décembre cette année.
Précision, Alexis, je vois que vous êtes très familier des chiffres et des...
Les vœux, c'est en ce moment du 17 janvier jusqu'au 14 mars.
Vous avez raison, monsieur le recteur nous corrigerait. Mais Parcoursup, vous avez recueilli un certain nombre de témoignages.
Ouais, effectivement, et notamment un autre témoignage d'un autre garçon qui s'appelle Paul, alors qu'il n'a rien à voir avec celui de...
C'est un autre Paul.
C'est un autre Paul, tout à fait, qui n'a rien à voir avec celui de Bazeille, qui nous explique, voilà, est-ce que finalement on a des appréhensions vis-à-vis de la plateforme, et puis est-ce qu'on en discute entre jeunes, finalement, de Parcoursup, ou est-ce qu'on est un petit peu... tout seul face à son destin, sans parler des professeurs, etc., mais au moins vis-à-vis des camarades.
J'appréhende un peu parce que c'est toujours stressant de devoir choisir pour son avenir. Pas forcément parce que je préférais me faire moi-même ma propre avis de la plateforme et de comment cela va se passer. Donc j'étais pas forcément très curieux de savoir leurs impressions à eux, surtout qu'on va pas forcément avoir le même projet d'études. C'est pour ça que je préfère attendre pour moi-même faire ma propre avis et stresser tout seul.
Alors ce qui était curieux avec ce garçon, c'est que dans les vœux qu'il a formulés, il a fait deux filières complètement opposées, psychologie et commerce. Alors c'est vrai que ça m'avait aussi un petit peu posé question, il n'a pas forcément voulu m'expliquer davantage pourquoi ces choix-là, mais j'avais trouvé que c'était deux filières complètement opposées. Et puis c'est vrai que ça m'a questionné, je me suis dit, moi, monsieur le recteur, mais finalement quand on est face à cette plateforme, on peut formuler des vœux peut-être qui n'ont aucune cohérence de l'un à l'autre.
Alors c'est une des caractéristiques de cette plateforme, c'est qu'elle vous offre un éventail de possibles qu'on n'a jamais connu. Moi, je me souviens que quand j'étais à la place de ce jeune, bon, on avait les possibles étaient en nombre beaucoup plus limité. Alors, c'est aussi une difficulté parce que quand on a un tel éventail, comment se repérer ? Donc, d'où l'importance de l'accompagnement des jeunes, c'est ce qu'on essaie de faire pour les guider. Je voudrais dire aussi que il y a quelque chose que je rappelle toujours au sujet de Parcoursup, c'est que contrairement à ce qu'on peut entendre parfois ou penser, Parcoursup, derrière Parcoursup, il y a toujours des gens, il y a des vrais gens. Parce qu'une fois que la candidature arrive dans l'établissement qui est demandé, il y a des commissions, il y a des personnes qui regardent les dossiers, donc ce n'est pas un algorithme de tri, il faut bien l'expliquer. C'est juste une façon de transmettre, d'optimiser ses chances et de faire parvenir finalement son dossier à un nombre très important d'établissements. Donc il y a de vrais gens. Et puis ce que je voudrais dire aussi, c'est que c'est un outil qui est... je pense de plus en plus affiné, de plus en plus performant. Par exemple, il y a des nouveautés. Cette année, les lycéens qui font des vœux vont pouvoir avoir une alerte lorsque le lycée, par exemple, ou la formation supérieure fait des portes ouvertes. Donc, ils vont pouvoir être informés du fait qu'ils pourront se rendre sur l'établissement, avoir des informations, rencontrer les enseignants. Ils vont avoir aussi la possibilité de conserver l'historique de leur recherche, justement pour se repérer dans ce maquis parfois des formations. Donc, vous voyez, c'est Aujourd'hui, on peut dire quand même, avec un recul de quelques années, on peut toujours l'améliorer, cet outil. Mais ce n'est qu'un outil qui ne remplace pas l'aspect humain, la réflexion, l'accompagnement en amont et en aval, c'est-à-dire préparer l'orientation et ensuite choisir les élèves, parce qu'il faut toujours le dire que ce qui compte, c'est le dossier, la motivation et puis quand même les notes. Hein. C'est toujours les déterminants majeurs de la réussite dans ses choix d'orientation.
Alors il faut dire aussi que beaucoup de parents stressent, parfois ils stressent plus que les élèves eux-mêmes. Il faut peut-être aussi, d'une certaine façon, et vous le faites, puisque le recteur les rassurait, en disant de toute façon, même si on est dans une filière, au bout d'un an, on peut aussi maintenant, aujourd'hui, dans l'enseignement supérieur, se réorienter, trouver des passerelles. C'est aussi un peu différent de ce qu'on a pu connaître il y a quelques années.
Il est normal que les parents aient une petite forme de stress pour l'avenir de leurs enfants. S'ils n'en avaient pas, ce serait presque inquiétant. Mais néanmoins, ce que je tiens à dire, et pour prendre la comparaison avec ce que j'ai pu vivre moi-même comme élève à l'époque, c'est que, objectivement...
Mais on vous imagine, je vous oui. interromps avec un peu de familiarité, monsieur le recteur, mais on vous imagine dans les livres de philo, étudiant avec justement un objectif déjà clair dans votre jeunesse. Vous-même, vous pensiez faire de la philo de haut niveau, de vos vols, vous intéressiez certainement en culture générale à beaucoup de choses.
Oui, mais pour à titre personnel, mais je sais pas forcément très intéressant, mais j'étais plutôt un mauvais élève du point de vue de l'orientation. Je ne savais absolument pas ce que je voulais faire. Et c'est pour moi une surprise d'ailleurs de finir dans les fonctions que j'exerce actuellement. Je n'ai pas été un élève très très bon dans la structuration de mon parcours. J'y suis arrivé, mais plutôt par empirisme, vous voyez. Mais ce que je tiens à dire, c'est qu'aujourd'hui, on a vraiment, d'abord en matière d'information, un accès qui n'a un niveau qu'on n'a jamais connu, j'allais dire, dans l'histoire. Chaque élève est à la fenêtre de toutes les formations. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que en matière d'accompagnement de nos jeunes, je crois pouvoir dire, même si on peut s'améliorer, qu'il y a aujourd'hui beaucoup de passerelles. Vous pouvez commencer une formation, trouver des passerelles vers une autre. Il y a quand même une forme de souplesse qui... Alors, évidemment, si vous avez commencé des études de lettres, ça va être difficile de la faire de la physique quantique. Hein. Mais néanmoins, il y a vraiment cette variété de parcours. Et puis, même les formations supérieures sont parfois des formations mixtes. On peut faire du droit, de l'économie. Enfin, je trouve que les choses sont beaucoup moins compartimentées qu'elles ne l'étaient à mon époque. Et donc, même si ça reste stressant, et je trouve que le paysage s'est quand même, si j'ose dire, un peu sérieusement dégelé et enrichi. Et il faut dire enfin, c'est le dernier point qui est très important, c'est que le monde du travail est aujourd'hui dans une bonne situation. Tous les établissements où je me balade dans l'académie me disent, mais nos jeunes trouvent, notamment les jeunes de bac pro, ils trouvent du travail tout de suite. C'est tout juste, il ne faut pas retenir les entreprises de les débaucher avant qu'ils n'aient le bac. Donc, voilà, il y a de l'emploi aujourd'hui, l'emploi est accessible, les possibilités sont immenses, et même si évidemment il y a toujours un stress, je crois que nos jeunes, peuvent choisir et trouver de l'emploi beaucoup plus facilement qu'il y a 30 ou 40 ans.
Cela fait à peu près 5 mois que vous êtes ici, 5 ou 6 mois, mais on prépare, et vous avez déjà préparé depuis septembre, la rentrée 2024 qui se profile. Quelles sont les grandes lignes de cette rentrée 2024? Est-ce que ça s'annonce bien, monsieur le recteur?
Alors, il y a plusieurs éléments, il y en a deux, très simplement. Il y a la démographie, c'est-à-dire est-ce qu'on a des élèves en plus ou en moins, et en fonction de cette démographie, quels sont les postes qu'on met en face des élèves? Alors, comme je vous l'ai dit, on a une baisse démographique qui malheureusement se poursuit. On va perdre de nouveau 2000 élèves dans les écoles. Et donc, nous allons adapter légèrement à la baisse le nombre d'emplois. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que malgré cette baisse de 90 emplois, pour être tout à fait précis, au niveau de l'académie, hein, au niveau des 4 départements de l'académie, ce qui est une baisse, en réalité, très faible par rapport au nombre d'emplois total, on est très très en dessous des 1%. Va nous permettre d'augmenter le taux d'encadrement. Il faut préciser, parce que c'est souvent pas connu, que l'Académie de Reims a le taux d'encadrement le plus élevé ou le plus favorable de la France tout entière, de la France métropolitaine en tout entière. C'est-à-dire que les seules académies qui ont un taux d'encadrement supérieur au nôtre, c'est la Corse et des départements des Outre-mer. Donc vraiment, on a quand même avec des variations, quand même des conditions favorables pour affronter cette rentrée. Ça, c'est l'aspect démographique. Après, vous avez l'aspect, j'allais dire, la nature des formations, ce qu'on va faire en plus, ce qu'on va faire de nouveau. On a trois axes de travail. On va créer plus de classes à horaires aménagés. Par exemple, à Troyes, on va ouvrir une classe horaire aménagée patrimoine, qui sera une nouveauté en France, comme il y a une classe horaire aménagée radio, comme vous le savez, dans les Ardennes. Donc on essaye de créer des formations innovantes, si j'ose dire, ça c'est le premier aspect. On va aussi essayer d'enrichir, et on va enrichir l'enseignement linguistique avec des... J'ai d'ailleurs récemment créé une nouvelle école dite Élysée, qui est une école bilingue en maternelle, en allemand. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est qu'en matière de formation professionnelle, comme je vous l'ai dit, on va poursuivre et enrichir notre gamme, si j'ose dire, de formation professionnelle en l'adaptant vers les métiers du futur. Les métiers du futur, c'est quoi ? C'est la transformation énergétique, c'est l'industrie décarbonée, c'est l'hôtellerie, restauration et donc le tourisme. Et puis, enfin, on a aussi tout ce qui concerne les nouveaux métiers, l'intelligence artificielle, tout ce qui intègre du numérique. Et donc, voilà. Donc, à la fois du structurel, mais aussi du qualitatif.
Donc, des innovations, des nouveautés, dans un contexte où on sent que ce soit au niveau du Premier ministre, qui était encore, il y a quelques semaines, ministre de l'Éducation nationale, la volonté de revenir à un certain nombre de règles qui font d'ailleurs plaisir à beaucoup de Français, c'est-à-dire bon, les fondamentaux, on a quand même toujours appris dans l'Éducation nationale à lire, écrire, compter, mais enfin il faut peut-être y revenir. On a évoqué l'uniforme, on a évoqué des formes, j'allais dire, de retour à l'essentiel. Dans l'académie, ça peut se concrétiser, ça va se concrétiser d'une manière un peu particulière.
Ah, ça va se concrétiser naturellement. Alors je dirais que ce qui nous est demandé, on peut se résumer en deux mots. C'est d'une part une forme d'exigence assumée, et on voit bien que chez nos compatriotes, je crois qu'il y a une sorte de consensus pour dire qu'il y a une demande d'une forme de cadre, de structuration, d'organisation et d'exigence plus forte. Ça c'est le premier point, mais aussi d'accompagnement, c'est-à-dire que l'éducation, c'est toujours accompagner nos jeunes. Évidemment, je vous donne un exemple qui est la question du brevet des collèges. Il est prévu, non pas pour cette année, mais la suivante, que le brevet des collèges soit vraiment une condition du passage, la réussite au brevet des collèges soit une condition du passage au lycée. Ce que ça n'est pas aujourd'hui, puisqu'on peut ne pas avoir son brevet et puis néanmoins passer au lycée. Et ce qui est prévu, c'est que il ne s'agit pas simplement de faire redoubler, pour faire redoubler les élèves. Si on le fait, c'est qu'on pense que c'est nécessaire pour qu'ils réussissent. Et donc, on va les accompagner pour leur proposer une formation qu'on va appeler la prépa lycée, qui c'est une classe de transition entre la classe de 3e et la classe de 2e, et qu'on va expérimenter ce dispositif dès septembre. Donc, pour répondre à votre question, comment ça va se traduire, on aura dans chaque département de l'académie une classe nouvelle qu'on va appeler prépa lycée, qui cette année ne sera pas une classe obligatoire, mais qui, pour des élèves qui se sentiraient et des familles qui considéraient que les résultats sont un peu faibles, qui sont un peu fragiles pour passer directement en classe de seconde, leur offrirait une sorte de sas, si l'on peut dire, qui serait une sas de remise à niveau, donc d'accompagnement, avant de les conduire à l'entrée du lycée. Ça, c'est, je vous donne un exemple. Vous évoquez le cas de l'uniforme. L'académie sera au rendez-vous aussi, puisqu'on a deux communes qui se sont déclarées intéressées par cette perspective, la commune de Troyes et la commune de Reims, avec lesquelles nous travaillons pour une mise en œuvre à compter de la rentrée prochaine. Ça, c'est un deuxième exemple. Et puis, sur la question que vous évoquez des savoirs fondamentaux, effectivement, c'est une chose qui avait déjà été dite depuis quelques années, mais que nous allons poursuivre. Et moi, je suis très, très attentif à ça. C'est-à-dire qu'il faut que nos élèves, par exemple, écrivent, lisent. Par exemple, si on prend le cas de l'écriture, nous allons être très attentifs au fait qu'on dépasse ce qu'on appelle les simples exercices à trous, vous savez, qui sont désormais même proscrits Il faut que les élèves écrivent et ne se bornent pas à remplir des photocopies.
Réfléchissent, construisent, voilà,
et construisent des argumentaires
raisonnement.
Et des raisonnements construits, longs éventuellement. Et donc c'est ce vers quoi on va travailler du point de vue de la pédagogie.
Monsieur le recteur, on a encore quelques minutes, mais il y a un certain nombre de dossiers qu'on n'a pas abordés et qui ont fait la une de l'actualité, et Reims n'a pas été particulièrement touché, mais on doit quand même sur ce terrain un peu vous provoquer d'une certaine façon, c'était le sujet du harcèlement. C'est un sujet d'ailleurs qui n'est pas lié à l'éducation nationale, on en parle également dans l'entreprise, on en parle dans les institutions religieuses aussi, un peu partout. Le harcèlement, c'est un sujet que vous avez pris à bras-le-corps dans l'académie et vous allez essayer d'y répondre encore plus en 2024.
Ah ben c'est un sujet très réel, c'est un sujet de société, c'est un sujet grave, disons-le, et sur lequel il faut que nous soyons tous mobilisés. Et je crois que c'est très très important, et je le dis très souvent aux chefs d'établissement, ce n'est pas parce que on a le sentiment dans un établissement il ne se passe rien, ou pas grand-chose, ou en tout cas que c'est un établissement tranquille, que pour autant il n'y a pas des risques. Et c'est malheureusement les cas les plus graves, on observe qu'ils sont souvent arrivés dans des établissements dont on disait qu'ils étaient tranquilles. Donc il y a un vrai risque social, il y a un vrai risque pour nos jeunes, qui est un risque parfois mortel, et donc c'est un des sujets parmi les plus graves et les plus sensibles, il faut le porter, lutter contre avec une très grande énergie, je pense.
Alexis, vous avez recueilli déjà un certain nombre de témoignages sur cette question difficile. C'était dans le cadre des missions de jeunes, il faut le rappeler.
Effectivement, c'est notamment grâce à l'émission Bulles étudiantes que l'on diffuse ici sur les ondes de RCF. Et c'est vrai que les jeunes eux-mêmes sont demandeurs. Alors là, ce sont des étudiants qui reviennent un petit peu sur ce qu'ils ont vécu durant leur scolarité, que ce soit en primaire, au collège,
donc ce ne sont
lycée,
pas
etc.
des élèves de lycée ni de collège de l'académie.
Pas actuellement. Ils l'ont été en primaire, au collège et au lycée, ils sont en première année d'études supérieures, mais ils reviennent un petit peu sur ce parcours et eux-mêmes, lorsqu'ils regardent dans le rétroviseur, comme on pourrait dire familièrement, ils sont un petit peu sceptiques sur tout ce qui était mis en place jusqu'alors pour lutter contre le harcèlement scolaire.
Alors moi, je pense que j'ai pas été assez sensibilisée sur le harcèlement scolaire parce que c'était quelque chose qu'on entendait parler. Les profs nous disaient oui, au début de l'année, ils nous disaient oui, faites attention au harcèlement scolaire, essayez d'être à l'écoute de vos amis, essayez d'être à l'écoute de votre entourage, des camarades qui sont un peu à l'écart, tout ça. Mais après, c'était tout. Après, on n'avait pas vraiment plus de sensibilisation. Heureusement, je crois que j'y ai pas trop été touchée personnellement, mais je pense qu'ils auraient pu mettre en place plus de choses, ça c'est sûr.
Moi, je me souviens de quelques interventions, surtout au collège, plus assez ciblées, mais après, c'était plus de la prévention en passant par des jeux ou des musiques, plus que quelque chose de concret en soi qui venait dénoncer ou aider réellement.
Je me souviens pas avoir un souvenir de prévention avant mes 10 ans, avant le CM1, j'ai aucun souvenir de STEM. Et puis c'était jamais les maîtres, les maîtresses qui le faisaient, moi c'est toujours l'infirmière qui le faisait, alors que c'était les maîtres finalement qui étaient au cœur de la classe tout le temps. Donc ouais, c'était assez dommage je trouve. Et puis au lycée, j'ai pas eu de vraie intervention, on devait faire des flyers, des choses comme ça sur le harcèlement, mais finalement on le faisait, on le rendait, on était noté et il n'y avait pas de discussion finalement en cours là-dessus.
Moi c'est pareil, je trouve qu'il y a quand même une idée d'inaction, parce que déjà faut savoir qu'en primaire, j'en ai jamais entendu parler, alors que bah il y en avait en primaire, on va pas se mentir, c'est là où ça commence. Mais au collège, c'était peut-être une intervention par an, faite par la CPE, pareil, pas du tout par les professeurs. C'était elle qui nous expliquait ce qu'on pouvait encourir. Sauf que pareil, entre dire ce qu'on peut encourir de façon judiciaire et parler des actions mises en place par l'établissement, c'est pas la même chose. Au lycée, j'en ai à peine entendu parler, il y avait peut-être 2-3 affiches qui se baladaient, mais c'est tout.
On voit, monsieur le recteur, que vous l'avez dit dès votre arrivée, vous avez fait de la lutte contre le harcèlement scolaire une de vos priorités, voire votre priorité absolue. Et on voit que les élèves qui sont passés par l'Académie de Reims, lorsqu'ils regardent dans l'introviseur, ils restent assez sceptiques sur ce qu'ils ont vécu.
Ces témoignages doivent nous interpeller. D'ailleurs, je note que tous ces élèves ne disent pas qu'il ne s'est rien passé. Ils disent surtout que ce qui leur a été proposé n'était pas forcément, à leur avis, complètement adapté. Même si, bon, on peut considérer tout néanmoins que faire une intervention, donner des numéros, c'est déjà évidemment une première étape. Ce qu'ils disent surtout, c'est que probablement à l'époque, manquait un aspect pratique des choses. Au fond, un lien entre la vie qu'ils vivaient comme élèves et ce qu'on leur avait dit sur le harcèlement. Et c'est la raison pour laquelle on a travaillé précisément cet aspect. C'est-à-dire, comment on va intégrer cette vigilance contre le harcèlement dans le concret, le vécu
au long cours, si j'ose dire, des élèves.
Et pour connaître ces pistes, rendez-vous sur le site RCF Reims-Ardennes, rubrique programme, dans la rubrique programme du site rcf.fr, donc tout simplement en choisissant votre radio préférée, RCF Reims-Ardennes. Merci pour votre écoute attentive. On se retrouve demain dans le magazine régional, 18h10, 19h, avec notamment Arnaud Robinet, le maire de Reims et président du Grand Reims. Il sera en direct sur RCF Reims-Ardennes dès 7h. Il me reste un petit peu de temps pour vous remercier pour votre fidélité, pour remercier Fabrice Gironnet et son stagiaire Thomas qui était à la mise en onde ce soir, pour remercier nos deux stagiaires à la rédaction, Sacha Lélès, dont vous avez découvert la voix aujourd'hui. Sacha, une bonne soirée, on se retrouve demain. Tu fais toute la journée avec nous de 7h jusqu'à 19h demain.
C'est ça.
Eh bien écoute, ça sera avec plaisir qu'on te retrouvera. Mélissa, tu arriveras un peu plus tard, mais tu seras avec nous demain soir également. Une très bonne soirée, Mélissa.
Bonne soirée.
Bonne soirée à toutes et à tous. Très bonne soirée en compagnie des programmes de RCF. Tout de suite, l'information nationale.